au congrès virtuel de C 2016. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétences. Ce soir, notre conférence s'intitule « L'âme de l'argent ». Avez-vous l'impression d'être comme emporté dans une spirale de manque ? Manque d'argent, manque de temps, manque de sommeil, manque d'amour, manque de santé ? Et quoi que vous fassiez, il n'y en aura jamais assez ? Et peut-être avez-vous baissé les bras ? Parce qu'il vous semble que cette situation est inévitable, une sorte de mauvais sort qui ne changera jamais ? Alors, nous avons une bonne nouvelle pour vous ce soir. Parce que dans cette conférence, nous allons découvrir ensemble trois mythes extrêmement courants au sujet de l'argent. Et surtout, bien sûr, comment les dépasser pour faire la paix avec l'argent, en finir avec la pénurie et la précarité et revendiquer la richesse de nos ressources intérieures. Notre conférencière sait de quoi elle parle. Elle n'a pas toujours connu l'abondance, loin s'en faut. Mais elle a pris un beau jour la décision de rompre avec le manque. Et elle est aujourd'hui devenue spécialiste de réussite et de prospérité. Elle partage avec nous ses découvertes au sujet de l'âme de l'argent. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dubois. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Maria et merci à toi et à Noël de m'avoir invitée encore à ce congrès. Ça me réjouit.
Merci à toi d'avoir répondu présente.
Alors, ben voilà, donc c'est, vous m'avez invitée et puis je me suis dit, bon ben, je sais pas pourquoi je t'ai demandé, je crois pour, je vais faire sur l'argent, tu m'as dit oui.
Oui.
Et puis je t'ai dit oui, et voilà.
C'est ta spécialité de travailler l'argent avec la technologie énergétique, alors pour moi c'était l'évidence.
Et puis après je me suis dit, oh zut, j'ai pas trop envie de parler de ça, j'avais envie de parler de l'EFT positif, puis je me suis dit non mais c'est, voilà. Je l'ai un tout petit peu regretté, mais pas suffisamment, parce que juste peu de temps après, j'ai reçu un mail qui me parlait d'une conférence d'une Américaine que je connaissais absolument pas, mais c'est le titre de sa conférence qui m'a fait tiquer et qui m'a fait le prendre pour cette conférence d'aujourd'hui. Et cette Américaine s'appelle Lynn Twist et elle a travaillé pendant au moins 30 ans dans un projet d'association caritative américaine qui récoltait des fonds pour mettre fin à la faim dans le monde et qui s'appelle The Hunger Project. Parce que la faim de la faim dans le monde, ça fait un peu bizarre.
Et la donc, faim du monde.
Oui, c'est ça. Et donc, j'ai écouté ses vidéos, j'ai lu son livre et j'ai bien aimé ce point de vue au sujet de l'argent que je trouvais différent des Américains habituellement. Elle parle pas du tout de loi d'attraction, même si c'est évoqué pas en tant que loi d'attraction, mais comme un espèce d'effet naturel. Elle a vraiment vécu, parcouru le monde, que ce soit, elle est allée voir Mère Teresa en Inde, elle est allée voir les plus grands millionnaires aux États-Unis pour leur demander des sous, ou elle est allée au Bangladesh pour aider les gens. Enfin, elle était dans tous les sens, un peu partout. Elle a rencontré aussi des gens qui l'ont inspirée, comme un architecte qui est mort maintenant, qui s'appelle Buckingham Fuller. Voilà, je ne vais pas me retenir son nom, mais qui était un avant-gardiste au niveau des pensées. Et donc, voilà, elle m'a rendue curieuse, elle m'a inspirée et de tout ce qu'elle avait vécu partout et pendant 30 ans quand même faire ça, c'est voilà. Maintenant, elle s'occupe de, elle a eu un appel de s'occuper des Indiens en Amazone, là, enfin, quelque part, une tribu. Et voilà, mais disons qu'elle est toujours dans un projet d'aide, hein, voilà. Mais ce travail qu'elle a fait pendant 30 ans pour The Hunger Project, ça lui a permis de changer son propre rapport à l'argent, puisqu'elle était très bien éduquée, dans un milieu qui avait de l'argent, etc. Donc, elle a tiré des conclusions. Et j'avais envie d'en livrer quelques-unes ici pour tous les gens du congrès EFT et qui, donc, d'une certaine manière, peut nous conduire à faire de l'EFT sur ses conclusions, puisque je pense qu'on risquait de raisonner avec ça. Mm-hmm. Et en plus, parce que je pense, ben voilà, on est dans une période où économiquement, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ben voilà, je vais mettre ma pierre à l'édifice pour qu'on se sente mieux et qu'on puisse, voilà, se connecter au meilleur de nous-mêmes en lien avec l'argent.
D'accord. Super, beau sujet. Alors, justement, à travers ces recherches et tes différentes lectures, c'est quoi précisément l'argent, Caroline ?
Alors, ben, c'est pas un produit de la nature, déjà, Maria.
Effectivement, on n'en a jamais vu pousser dans les champs.
Voilà, exactement. L'argent est une invention strictement humaine. Une invention humaine vraiment distincte. C'est une fabrication de notre génie, on pourrait dire. On l'a inventé, on l'a fabriqué. Et cet objet qui est inanimé est apparu sous des tas de formes depuis plus ou moins 3000 ans. Il y a eu des coquillages qui étaient une monnaie, des lingots, ça on connaît aussi. Mais maintenant, il suffit d'un bip ou un clic sur Internet qui devient de l'argent. C'est devenu totalement virtuel. Et donc, depuis le début, ben, l'argent, ça a été inventé pour faciliter le partage et l'échange de biens et de services entre les individus et les groupes. Donc, l'argent facilite encore aujourd'hui cet échange de biens et de services. Mais sur notre route, nous avons donné à l'argent un rôle bien au-delà, supérieur à son utilité originelle.
De ce pur échange de valeurs.
Exactement.
Oui. Alors, ce titre qui t'avait tant intrigué dans la conférence et le livre de Lynn Twist, c'est « L'âme de l'argent », c'est bien ça ?
Oui, exactement.
Alors, justement, est-ce que l'argent a une âme ?
Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que l'argent pourrait avoir une âme alors que c'est un objet inanimé ? Oui, en fait, est-ce que l'argent a une âme ? Non, bien sûr que non. L'argent, c'est notre invention.
Oui.
Nous l'avons inventé, nous l'oublions parfois. Mais nous avons une âme. Et nous pouvons donner de l'âme à l'argent dans la manière où nous l'utilisons, dans la manière où nous le gagnons, nous le dépensons, nous l'épargnons, dans la manière où nous l'investissons, dans la manière aussi dont nous contribuons, hein, quand nous donnons à des œuvres. Ben c'est la manière dont on donne à cette œuvre a beaucoup d'importance sur cet argent.
Mmh. Oui, ça sera développé, je crois.
Donc, plutôt que de relier l'argent à un outil que nous avons créé et contrôlé, nous nous sommes mis à en faire comme dans la légende avec Moïse, hein, qu'il y avait le veau d'or là, qu'ils avaient adoré. Et voilà, on en a fait vraiment vraiment bizarre, alors que ce truc qu'est l'argent, c'est cette énorme production de papier, sans plus de pouvoir qu'une pile de papier ou que de Kleenex, c'est devenu la force, une des forces les plus contrôlantes dans nos vies.
Oui, l'argent fait vraiment partie de notre quotidien.
Ouais. Mais nous pouvons vraiment donner une âme à cet argent. Nous pouvons veiller à ce que l'argent soit une force dans notre monde plutôt que le contraire. Nous pouvons faire en sorte que l'argent pleuve sur des gens, sur des projets, et sur des choses qui sont importantes pour nous. Nous pouvons vraiment déplacer l'argent vers les bonnes choses, vers les choses les plus élevées, vers les engagements les plus profonds de la famille humaine et de toutes les espèces. Et en plus, nous avons ce pouvoir chaque jour. Donc, nous avons donné à cet argent comme une autorité quasi ultime. Si nous regardons parfois juste les comportements qu'on a vis-à-vis de l'argent, nous pouvons observer que nous avons rendu l'argent plus important que nous-mêmes. Nous lui avons parfois donné plus de sens que la vie humaine. D'ailleurs, il y en a même qui font des choses, qui ont fait des choses, qui font des choses encore. Des choses terribles au nom de cet argent. Ils ont tué pour lui. Ils ont rendu d'autres esclaves, on a rendu d'autres humains esclaves avec cet argent. Il y en a qui se rendent aussi esclaves aujourd'hui, avec des vies sans joie juste pour suivre cette chasse à l'argent.
Mmh. Donc on voit bien que l'argent n'est pas neutre.
Bah non, c'est nous qui lui donnons tout ce pouvoir.
Même source de conflit, ouais.
Ouais. Et donc en anglais, il y a une expression qui dit... Make a living, on dit c'est gagner sa vie. Et Lynn dit, mais c'est en anglais, c'est intraduisible en français. Elle dit, il y en a qui disent, they make a killing. Au lieu de make a living, make a killing. Donc au lieu de gagner leur vie, ils tuent leur vie ou ils tuent leur propre vie juste en travaillant pour gagner leur vie, mais en se tuant en gros. Mm-hmm. Mais donc c'est un jeu de mots entre to make a living et to make a killing. Mais donc, on va explorer cette relation conflictuelle que nous avons presque tous avec l'argent. Parce que, comme je le disais, l'argent n'est pas le problème en soi. L'argent n'est pas bien ou mal. L'argent n'a pas de pouvoir. Mais c'est notre interprétation de l'argent, notre interaction avec l'argent qui est le problème. Donc, je vais vous inviter maintenant à examiner votre relation à l'argent dans votre histoire. Car l'argent est là et a du sens dans l'histoire de chacun. Et vous pouvez commencer ce processus d'examen et transformer le mystère de l'argent et ce qu'il représente et le déplacer peut-être vers un endroit qui sera peut-être plus approprié à peut-être l'évolution de la planète aujourd'hui, à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus haut, de plus beau.
Oui, effectivement, on peut facilement voir tous ces conflits autour de l'argent. Est-ce que tu irais jusqu'à parler d'une guerre interne au sujet de l'argent, Caroline?
Oui, je trouve que ça dépend bien sûr de l'évolution spirituelle de chacun, je dirais. Mais en tout cas, là d'où je viens, je peux vous dire que j'ai vécu, je sais pas si je veux dire une grande guerre ou des grandes guerres avec l'argent.
Des batailles.
En tout cas, je crois que j'ai assisté à des batailles au sujet de l'argent. Je parle ici de manière, j'ai pas vu de gens se battre. Hein, non. Mais c'est l'idée, c'est que j'ai vu, et j'ai été une grande angoissée. Et c'est pour ça que c'est devenu un de mes sujets, parce que j'avais envie de guérir ces angoisses. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à l'argent. Mais maintenant, je dirais que je ne suis plus trop dans ces guerres internes. Mais parfois, je me retrouve un peu dans le clivage que je vais vous expliquer. Je me retrouve encore de temps en temps, un peu rattrapée malgré moi.
Oui, et c'est le parcours de toute une, un projet de toute une vie, je pense. Il n'y a pas, réglé beaucoup de choses, mais heureusement, il reste aussi des choses à faire, parce que sinon, tu pourrais t'ennuyer.
Oui. Donc, la plupart d'entre nous vivons ce conflit interne. Alors, dépendant de qui m'écoute, de guerre interne entre nos intérêts financiers et l'appel de notre âme. Alors, vraiment, c'est vraiment ce qui pourrait paraître comme deux extrêmes. Parce que dans le domaine de l'âme, nous sommes intègres, nous sommes généreux, nous agissons avec intégrité, nous sommes compatissants, généreux, engagés, courageux. Nous reconnaissons la valeur de l'amour, de l'amitié. Nous admirons la plus belle petite chose bien faite de la nature. Nous vivons des moments de bonheur dans cette nature. Nous sommes ouverts, même parfois vulnérables, pleins de compassion. Nous avons la capacité d'être émus. Nous avons confiance aux autres. Nous nous sentons en paix avec nous-mêmes et confiants que nous faisons partie d'un grand tout, d'une expérience universel, de quelque chose de plus grandiose que nous. Ça, c'est quand on est vraiment aligné, que je suis dans mon cœur, que ouf. Et puis quand j'entre dans le domaine de l'argent, ou quand nous entrons dans le domaine de l'argent, tout d'un coup, paf, nous semblons déconnectés de cette personne consciente, de son âme, que nous connaissions de nous il y a 5 minutes. C'est comme si nous étions transportés sur un terrain de jeu différent. Et tout d'un coup, les règles ne sont plus les mêmes. Sous l'emprise de l'argent, ces merveilleuses qualités semblent disparaître. Nous rétrécissons et devenons tout petits. Nous grimpons ou courons pour attraper, arracher notre dû. Nous devenons égoïstes, avares, avides, pleins de peur, parfois coupables, envieux, frustrés, fâchés, méchants. Enfin, le pire de...
Oui, c'est vraiment l'extrême, oui.
De notre personnalité, de notre humanité, dans le côté non connecté, quoi. Donc, alors, du coup, on va voir soit comme un gagnant ou comme un perdant, puissant ou impuissant. On va se laisser définir par des étiquettes de manière qui est inadéquate, comme si avoir de l'argent indiquait une supériorité ou le manque d'argent comme un manque de valeur ou un simple potentiel basique, quoi, qu'on était juste basique, qu'on n'était pas plus que ça parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, tout d'un coup, si on est dans l'un ou dans l'autre, c'est comme si les possibles disparaissaient. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez voir les choses un peu autrement. Que la relation avec l'argent puisse être un endroit où vous mettez vos forces, vos compétences, vos aspirations les plus hautes et vos qualités les plus profondes. Donc, de vraiment mélanger là, que ce soit pas ou ça, ou être connecté à notre âme, ou être dans notre toute puissance d'argent ou toute impuissance d'argent, c'est vraiment de se connecter et de pouvoir marier ces deux aspects de nous, de vivre l'argent au mieux, qu'on peut être vraiment des êtres fantastiques avec l'argent et avec notre relation à l'argent.
Donc faire la paix avec l'argent, en fait.
Oui.
Cesser cette guerre intérieure.
Oui.
Et de trouver la paix.
Oui. Oui, je pense que ça.
Alors justement, Lynn Twist, dans son livre « L'âme de l'argent », il faut que je fasse attention parce que je confonds facilement ces mots. J'ai envie d'appeler son livre « L'argent de l'âme », mais c'est pas la même chose. Donc, « L'âme de l'argent », oui. Elle dit qu'elle a vécu beaucoup de choses, qu'elle a vu, ça a été un peu le « wow », la montagne russe
oui.
pour écrire cette histoire. Tu peux nous donner un exemple ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'elle était déjà encore très, on va dire, novice dans son boulot. Mais son métier donc principal, c'était de récolter des fonds pour ce Hunger Project. Donc un jour, on lui dit que elle doit rencontrer le président d'une entreprise alimentaire bien connue, un des géants américains dont le siège social est à Chicago. On est à la fin des années 70, donc c'est déjà il y a un petit bout de temps. Et le même jour, elle avait promis de faire une conférence pour récolter des fonds parce qu'on lui avait, enfin cette église lui avait demandé de venir. C'était une église de Harlem. Une fois qu'elle avait vu que ses horaires étaient compatibles, elle s'est engagée pour les deux rendez-vous le même jour. Donc c'était la première fois qu'elle avait un rendez-vous avec une énorme donation, puisque c'était une grosse entreprise, c'était vraiment un géant américain. Donc, de la manière dont elle abordait son rendez-vous était un peu inconfortable, et cela ne s'améliorera pas au fur et à mesure de sa journée. Déjà, elle a commencé à se poser des questions sur ce qu'elle allait devoir porter pour voir ce grand CEO, comme on dit en anglais, ce grand président, directeur général, ce PDG. Et déjà aussi, quand elle arrivait devant l'énorme gratte-ciel de Chicago, elle se sentait tout à fait minuscule. Et puis, pour arriver au penthouse où se trouvait le bureau du PDG, ben, il fallait changer chaque fois d'ascenseur pour atteindre le sommet. Et au fur et à mesure que cet ascenseur montait, plus grande était sa nervosité. Au plus haut elle montait, au plus elle se sentait un peu déconnectée du reste du monde. C'est comme si elle faisait un pèlerinage au sommet d'une montagne. C'est comme si, comme en montagne, l'air semblait se raréfier. Elle savait pas grand-chose au sujet de cette contribution potentielle, mais on lui avait juste dit la chose suivante, que l'entreprise en question avait connu des problèmes au niveau de son image et avait été reconnue coupable de certaines choses. Donc les dirigeants ont pensé que faire une donation au projet fin dans le monde et être vu comme contributeur pourrait redorer leur image. Donc on l'a introduit dans le bureau du président, hein, grosse moquette, énorme bureau, on l'a fait asseoir en face de lui. Et juste derrière lui, il y a d'énormes vitres, comme un mur entier de vitres où on voit tout le dessus. Enfin, on l'a vu sur Chicago. Mais cette lumière était tellement forte qu'elle l'aveuglait et qu'elle ne pouvait pas bien distinguer les traits du visage du président. Donc, c'est comme si elle parlait à une ombre. Et comme il lui avait accordé seulement 15 minutes, donc elle avait 15 minutes pour le convaincre, donc elle commence à lui parler du projet et du défi que ça représentait d'en finir avec la faim dans le monde, tout ça en un quart d'heure. Et donc elle a parlé du courage des personnes qui avaient faim et du partenariat pour les nourrir, eux et leurs enfants. Donc elle parle toujours, chaque fois elle parle en fonction des gens qu'elle a en face d'elle. Hein. Ici c'est une compagnie de nourriture, donc la faim, enfin tout ça. Et comment on peut construire des conditions pour une vie saine et productive pour les gens à aider. Donc, quand elle a terminé son speech et qu'elle fait sa demande, pas de réponse, il ouvre le tiroir de son bureau, il prend un chèque qui est déjà pré-imprimé, et c'est un chèque de 50 000 dollars qui glisse doucement vers elle. Mais en fin des années 70, c'est un gros chèque quand même, 50 000 dollars. Hein. Donc, il était clair qu'il la voulait partie le plus vite possible. Le ton de sa voix polie et le manque de questions montraient clairement qu'il n'en avait, j'ai envie de dire, rien à caler. Aucun intérêt dans le travail de la faim dans le monde. C'était purement un geste stratégique. Il voulait juste se débarrasser de la culpabilité et de la honte que l'entreprise avait pour ses erreurs, qui était publiquement connu. Il avait juste envie que l'entreprise ait une bonne image dans les médias. Donc, en termes purement financiers, c'était une simple transaction pour lui. C'était donner ce chèque de 50 000 dollars permettait à l'entreprise de se racheter une réputation. Donc, alors qu'elle voyait ce chèque qui se glissait vers elle, elle sentit comme une vague de culpabilité se diriger. Il lui avait donné l'argent et la culpabilité. Novice comme elle se dit... voilà, c'était un étrange rendez-vous, vu qu'elle était encore très novice là-dedans. Elle met le chèque dans son attaché-caisse, elle reprend le chemin inverse, au revoir monsieur, dans les salons feutrés en enfilade, puis ascenseur en ascenseur pour quitter l'immeuble. Et en descendant, oh, elle sent comme, je sais pas si c'est une nausée ou une sensation désagréable dans son estomac. Mais elle sait que c'est pas le voyage en ascenseur. Parce que quand on connaît les ascenseurs d'immeubles très hauts, on peut avoir cette sensation, je vous le dis. Hein, mais si, puisque je pense que Paria, t'as déjà dû aller dans ce genre d'ascenseur.
Oui.
Aux États-Unis, c'est parfois étrange, mais elle sait que c'est pas ça. Elle savait juste qu'elle se sentait pas heureuse alors qu'elle pensait qu'elle devait l'être, puisqu'elle avait récolté un énorme chèque.
Oui, elle venait de recevoir un beau cadeau pour son projet. Hein.
Ouais, c'était la première fois qu'elle avait reçu un aussi gros chèque d'une seule personne à la fois. Donc, elle savait qu'en plus, tout le monde au bureau allait se sentir ravi qu'elle allait revenir avec ce gros chèque. Mais elle se sentait un peu sale et malade. Quitte Chicago, elle arrive à New York où c'est la tempête, ça pleut dans tous les sens. Et elle se dirige vers Harlem qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un quartier extrêmement pauvre, noir de l'époque. Alors maintenant, je pense que ça a un peu changé, c'est devenu un peu plus in aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Donc, et cette église se trouve dans un sous-sol. Donc, elle descend l'escalier. Et il y a l'événement qui est organisé, il y a 75 personnes qui l'attendent. Donc vous imaginez un peu le contraste entre le penthouse avec la vue sur Chicago et la lumière blafarde de l'escalier froid, humide, où il y avait des fuites et des seaux qui étaient stratégiquement placés pour récolter les gouttes des fuites. Le bruit de la pluie sur une partie des vitres horizontales, qui le bruit de la pluie averse, plus les plic-plop des gouttes venant du plafond dans les fameux seaux. Donc, entre l'ambiance feutrée avec une personne et puis 75 personnes. Mais elle se sent soulagée et tout en étant consciente qu'elle est quand même la seule femme blanche, la seule personne blanche de la salle. En plus, sa petite robe de soie qu'elle portait pour impressionner le président n'était pas vraiment le meilleur des accoutrements. Mais bon, elle s'en sentait un petit peu, c'était un peu superflu. Mais, et elle savait en plus que les gens à qui elle allait parler maintenant n'avaient pas beaucoup d'argent à donner. Et donc, elle s'est dit, je vais parler de l'Afrique et a commencé à parler du projet, de l'engagement de Hunger Project en Afrique. Donc, au moment où elle termine sa conférence et qu'il est venu le moment pour recevoir les donations, elle fait sa requête tout en se demandant si c'est la bonne chose à faire hein, puisqu'elle se rend compte des niveaux pas très riches de l'assemblée. Et la salle restait silencieuse. Et après un moment qui semble être une éternité, il y a une femme qui se lève. Elle était assise plutôt à l'arrière, sur le côté. Elle devait avoir plus ou moins la soixantaine, était coiffée avec un chignon très net. Elle était grande, droite, mince et fière. Elle dit « Ma fille !» dit-elle. Je m'appelle, parce que je pense que à ce moment-là, Lynn devait avoir pas peut-être 30 ans. Je m'appelle Gertrude et j'ai aimé ce que vous avez raconté. Et je vous aime bien. Maintenant, j'ai pas de chèque ni de carte de crédit. Pour moi, l'argent, c'est comme de l'eau. Pour certains, il coule comme une grande rivière dynamique. Et dans ma vie, l'argent vient comme un petit filet, mais j'aime le faire passer d'une manière que cela puisse faire le plus de bien au plus de personnes. Je le vois comme mon droit et ma responsabilité, et même comme une joie. J'ai $50 dans mon porte-monnaie d'avoir fait le linge d'une femme blanche et je vais vous les donner. Et donc elle s'avance lentement vers Lynn et lui donne les $50 en petites coupures, et puis lui fait une énorme accolade, et s'en retourna à sa chaise. Et alors qu'elle retournait à sa chaise, toutes les autres personnes ont commencé à se lever et à venir donner leur contribution, l'un avec des $1, des $5, des 10 ou des maximum $20. Et Lynn était si émue qu'elle pleurait. Elle avait trop de billets à un moment donné dans ses mains, donc elle a pris son attaché-caisse pour s'en servir comme d'un panier où elle a commencé à mettre tous les billets pour qu'ils servent de panier, quoi. Et ce moment était vraiment magique. Il y avait vraiment un sentiment de cœur et de générosité de toutes les personnes présentes. Et les 600 $ comme ça en billets qui avaient été déposés là étaient vraiment les plus précieux qu'elle avait jamais ressentis auparavant de toutes ces récoltes. Et puis, en même temps, elle prit conscience que sous les billets, il y avait ce chèque. Et elle réalisa que Gertrude avait donné, ce que Gertrude avait donné avait beaucoup plus de valeur pour arrêter la faim dans le monde que le chèque qui lui avait été remis le matin même. Parce que vraiment, l'argent reçu de Gertrude portait un engagement, l'empreinte de son âme, quoi. Elle se sentait vraiment, elle s'est vraiment sentie inspirée par Gertrude et revigorée par cette intégrité, tout le sens qu'elle y avait mis, tout, alors que vraiment elle avait sans doute travaillé toute sa journée ou je ne sais pas combien de jours à l'époque pour avoir 50 $. Donc l'argent Gertrude venait vraiment d'une âme et non d'une banque pour faciliter une culpabilité ou pour acheter de l'admiration. C'est vraiment elle qui avait élevé le niveau de cette soirée pour tout le monde. Et Lynn vraiment a senti que les 600 $ qu'elle avait récoltés étaient tous... C'est comme si c'était de l'argent béni. Donc vraiment, ce que Gertrude a appris à Lynn, c'est que le pouvoir de l'argent vient de l'intention qu'on lui donne et de l'intégrité avec laquelle on le dirige dans la vie. Et donc, Gertrude ne sait pas à quel point ça a aidé Lynn à être claire pour récupérer à elle sa propre intégrité. Et sa propre intégrité, ça veut dire que le lendemain, Lynn a renvoyé le chèque avec toute la culpabilité et la honte qui étaient attachées au PDG.
Elle a écrit la...
Oui. Elle a écrit une lettre au président en lui suggérant de choisir plutôt une organisation avec laquelle il se sentait plus en accord. Donc quoi, elle n'a pas du tout critiqué, elle a dit juste, voilà, tout en le remerciant pour son geste. Puis bon, elle n'a plus jamais entendu parler de lui jusqu'à plusieurs années plus tard. Son organisation était à elle, était devenue de plus en plus connue. Et un jour, elle a reçu une lettre de cet homme qui était avant président de cette compagnie. Et une longue lettre, parce que cet homme était maintenant à la pension. Il avait réfléchi à sa vie professionnelle et au moment fort de sa vie. Et il dit qu'il ne se rappelle pas du tout dans cette lettre de la rencontre quand il lui a donné le chèque, mais qu'il se souvient très très bien de la lettre qu'il a reçue de Lynn avec son message. Et que ce message, en fait, contredisait toujours tout ce qu'on lui avait appris, puisque c'était ce qu'on lui avait appris, c'était faire du profit à tout prix. Et donc ici, le profit, c'était de faire de la pub pour la société à l'époque. Donc, il a réalisé à l'époque de sa retraite, de sa pension, que c'était important aussi pour lui de contribuer à la faim dans le monde. Alors, dans le livre, elle ne met pas le montant, mais dans une conférence, elle dit qu'il lui a donné un chèque de son argent personnel de 250 000 $.
Donc, elle a bien gagné au change, finalement.
Oui, c'est ça. Donc, parfois, en fait, quand on est intègre et qu'on fait en fonction de ce qu'on ressent profondément, ça rapporte beaucoup plus. Oui. Que si elle avait pris, si simplement elle s'était dit « Ah non, mais c'est 50 000, il faut absolument que je les ramène. » Et je trouve que voilà, cette histoire, quand elle la raconte dans une de ses conférences et aussi dans son livre, je me suis dit « Bon, moi ça, je trouve qu'il faut la raconter parce que voilà, je trouve que c'est… » Ou je pense aussi à Mère Teresa qui, qui avait tellement confiance dans… l'abondance, je sais plus, un jour, elle avait mis qu'elle avait 25 000 lits, je sais plus si elle a mis ça sur un hôtel quelconque, et puis quelques temps plus tard, on lui a offert 5 000 lits, enfin, c'est vraiment des trucs comme ça, parce que c'est tellement en alignement et dans la confiance qu'il y a de l'abondance.
C'est ça.
Voilà, Maria, ça c'était ma petite histoire.
Oui, une belle histoire, effectivement, voilà. Qui était importante de partager. Merci.
Oui.
Alors justement, je sais que tu voulais aussi nous parler de 3 mythes très courants au sujet de l'argent.
Oui, eh bien absolument. Donc ce premier mythe, c'est le mythe de la pénurie, du manque. Parce que dans notre monde occidental d'abondance, notre conversation est dominée souvent parce que soit... par ce que nous n'avons pas ou ce que nous voulons avoir, quel que soit qui nous sommes ou nos circonstances, c'est-à-dire qui nous sommes, que nous ayons peu d'argent ou beaucoup d'argent, nos conversations tournent autour de ce qui nous manque. Moi, je le vois aussi en moi, mais je l'entends aussi ailleurs. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, même la première pensée de la journée, c'est « je n'ai pas assez dormi ». Donc, on a déjà une idée de pénurie là-dedans. Nous n'avons... La pensée suivante, c'est « je n'ai pas assez de temps ». N'est-ce pas, Maria, pour organiser toutes les... conférence.
Oui, c'est une pensée que j'ai connue.
Nous ne faisons pas assez d'exercices, nous n'avons pas assez de bénéfices, nous n'avons pas assez de week-ends, nous n'avons pas assez de vacances, nous n'avons pas assez d'argent, je ne suis pas assez mince, pas assez intelligente, pas assez formée, pas assez de réussite, pas assez jolie, pas assez riche, pas assez compétente.
Stop.
Exactement. Ouais. Mais c'est dingue parce que parfois, bien avant de nous lever, avant que nos pieds touchent le sol, on est déjà
inadéquat,
en retard, perdant, en manque de quelque chose. Et quand nous allons nous coucher, notre esprit est déjà de une litanie de ce que nous n'avons pas eu forcément, puisque nous n'avions pas, ben nous n'allons pas plus l'avoir, hein, puisqu'on est dans une course effrénée. Donc nous allons dormir avec ces pensées et nous nous réveillons dans cette rêverie de manque de manière un petit peu continuelle. Donc c'est vraiment une sorte de mantra. Et ce mantra, il est en toile de fond de la journée, en partant du cash dans notre poche, en passant par les gens que nous aimons, par la valeur de cet argent dans notre vie. Et ce qui commençait par la simple expression d'une vie trépidante grandit dans la justification d'une vie non comblée. Ce mantra de pas assez devient la raison pour laquelle nous n'avons pas ce que nous aimerions avoir. C'est terrible ça. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas réussir l'objectif que nous nous étions fixé. C'est pas assez, c'est la raison pour laquelle nos rêves ne peuvent se réaliser. C'est comme une condition de vie définie, mais non dite. C'est juste en toile de fond. On a tout le temps ce pas assez en toile de fond. Que nous ayons des circonstances de vie riches ou pauvres, nous vivons dans l'ascension de la pénurie et du manque. Ce n'est pas que nous expérimentons continuellement le manque, mais que la pénurie est un sentiment comme chronique. Et aussi, la pénurie est l'endroit où on se place à partir duquel nous vivons, pensons et agissons dans la vie. Et à travers cette loupe du manque, nos comportements, nos attentes et leurs conséquences deviennent une prophétie de manque et forcément d'insatisfaction. Nous sommes vraiment coincés dans ce cycle de déconnexion et d'insatisfaction. Donc nous finissons par croire les messages commerciaux et culturels qui disent que l'argent peut acheter le bonheur, que si je vais avoir une plus belle voiture, un plus beau ceci ou un plus beau cela, ma vie va être plus belle. Alors nous recherchons à l'extérieur de nous-mêmes pour trouver le bonheur, l'argent et la satisfaction. Et intuitivement, nous savons que ce n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Mais cette culture de l'argent, elle coupe un peu notre voix intérieure parce qu'on est bombardé d'images, de pubs, dont nous nous sentons obligés de trouver la solution dans ce que l'argent peut acheter. Mm-hmm. Bernard Liétard, qui a écrit un livre qui s'appelle « À propos de la richesse humaine », il a été le responsable de la Banque centrale en Belgique. Et il dit que l'avidité et la peur de manquer sont programmées par les grosses sociétés parce que ça ne fait pas partie en fait de notre nature humaine. Donc, et c'est la même idée, c'est que comme on a ce sentiment de pas assez, c'est la raison pour laquelle nous faisons parfois un travail qui ne nous plaît pas. Et où c'est aussi une raison pour laquelle nous faisons parfois des choses aux autres, pour lesquelles nous ne sommes pas fiers. Hein. Les gens volent les uns les autres parce qu'ils n'ont pas assez. Et ce mantra de pas assez, il génère aussi de la peur d'être mis sur le côté, d'être abandonné, d'être marginalisé par le groupe. Hein, on veut faire comme tout le monde. Et donc aussi, en plus, ce mythe du pas assez est très répandu au niveau personnel et émotionnel. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'avais créé à l'époque, et qui existe toujours, ce programme Prospérité et Réussite, vu que je voyais pas le manque à ce moment-là de manière aussi large que Lynn, mais vraiment ce manque qu'on vit effectivement, qui peut être symbole encore d'autres choses, mais c'est vraiment pour pallier à cette espèce de mantra de manque.
Mmh. Et justement, dans ce programme, je sais qu'il y a beaucoup de FT, Caroline.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut venir au bout de ce mythe? Enfin, on va peut-être pas venir au bout aujourd'hui, en une dizaine de minutes, mais voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous montrer comment on peut commencer à s'ouvrir à autre chose grâce au tapping?
Exactement. Donc, je vais vous proposer une ronde de tapping, si tu es d'accord, Maria, d'être celle qui tapote avec moi.
Absolument. Ça peut pas me faire du mal.
Je pense que ça ne ferait du mal à personne.
D'ailleurs,
on peut le faire, comme dirait Willem, on behalf, on peut le faire pour nous-mêmes et pour tout le monde qui écoute et pour tous ceux qui veulent en bénéficier.
Absolument.
Donc, vous allez prendre votre main dominante et tapoter sur votre poing karaté. J'ai l'intention de me connecter au divin en moi.
J'ai l'intention de me connecter au divin en moi.
Et toute son abondance.
Et toute son abondance.
J'ai l'intention.
J'ai l'intention.
De me libérer de ce problème de manque.
De me libérer de ce problème de manque.
Définitivement.
Définitivement.
Dès à présent.
Dès à présent.
Même si j'ai peur de manquer.
Même si j'ai peur de manquer.
Je m'accepte avec cette peur.
Je m'accepte avec cette peur.
C'est normal d'avoir peur de manquer.
C'est normal d'avoir peur de manquer.
Si on a manqué par le passé.
Si on a manqué par le passé.
Ce qui est rassurant, c'est que je ne suis pas la seule.
Ce qui est rassurant, c'est que je ne suis pas la seule.
Ou le seul, hein, pour les hommes qui nous écoutent. Même si j'ai peur de ne jamais pouvoir guérir de ce manque.
Même si j'ai peur de ne jamais pouvoir guérir de ce manque.
J'accepte que c'est une pensée limitante.
J'accepte que c'est une pensée limitante.
Et si j'aimais être bloquée dans les problèmes?
Et si j'aimais être bloquée dans les problèmes?
Dans ce problème.
Dans ce problème.
Même si j'ai cet état d'esprit de manque et de précarité.
Même si j'ai cet état d'esprit de manque et de précarité.
Je choisis d'être consciente.
Je choisis d'être consciente.
De mon abondance.
De mon abondance.
Et de toutes mes richesses.
Et de toutes mes richesses.
Ok. Maintenant, on va tapoter le dessus de la tête. Je suis habituée à penser à tout ce qui manque.
Je suis habituée à penser à tout ce qui manque.
Début du sourcil. Je n'ai pas assez d'argent.
Je n'ai pas assez d'argent.
Coin de l'œil. Nous n'avons pas assez d'argent.
Nous n'avons pas assez d'argent.
En dessous de l'œil. Le gouvernement n'a pas assez d'argent.
Le gouvernement n'a pas assez d'argent.
En dessous du nez. Les banques n'ont pas assez d'argent.
Les banques n'ont pas assez d'argent.
En dessous de la bouche. Les entreprises n'ont pas assez d'argent.
Les entreprises n'ont pas assez d'argent.
Sous la clavicule. Je suis cernée par le manque.
Je suis cernée par le manque.
Entre des bras. J'ai des tas de scénarios imaginaires de manque.
J'ai des tas de scénarios imaginaires de manque.
Entre des seins. J'imagine le pire.
J'imagine le pire.
Le dessus de la tête. J'ai un manque de tout.
J'ai un manque de tout.
Début du sourcil. Je n'ai pas assez de temps.
Je n'ai pas assez de temps.
Coin de Je n'ai pas assez dormi.
Je n'ai pas assez dormi.
Entre le Je n'ai pas assez de repos.
Je n'ai pas assez de repos.
Je n'ai pas fait assez d'exercice.
Je n'ai pas fait assez d'exercice.
Entre les bouches, je ne fais pas assez de bénéfices.
Je ne fais pas assez de bénéfices.
Sous la clavicule, je ne travaille pas assez.
Je ne travaille pas assez.
Entre les bras, je n'ai pas assez d'amour.
Je n'ai pas assez d'amour.
Entre les seins, je n'ai pas assez de tendresse.
Je n'ai pas assez de tendresse.
Au-dessus de la tête, je n'ai pas assez de vacances ni de repos.
Je n'ai pas assez de vacances ni de repos.
Début sourcil. Mais j'aime être bloquée.
Mais j'aime être bloquée.
Et être victime de ce sort de manque.
Et être victime de ce terrible sort de manque.
Pardon, je ris parce que ça a résonné. Donc on se moque pas.
Non.
Parce que ça a résonné.
Voilà, un moment d'autodérision. Voilà. Parce que ça résonne, effectivement.
Pourquoi changer un programme qui est en place depuis si longtemps?
Pourquoi changer un programme qui est en place depuis si longtemps?
Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas?
Et maintenant, je voudrais que vous pensiez à tous ces traumas, à tous ces souvenirs de manque, à tous ces... aux choses actuelles, hein, par rapport à ce manque. Je libère et je lâche.
Je libère et je lâche.
Tous les traumas. Les souvenirs.
Tous les traumas, tous les souvenirs.
Toutes les images.
Toutes les images.
Tout ce que je me dis.
Tout ce que je me dis.
Et tout ce que j'entends.
Et tout ce que j'entends.
Au sujet du manque.
Au sujet du manque.
En dessous de la bouche. Je libère et je lâche ce mot manque.
Je libère et je lâche ce mot manque.
Sous la clavicule. Je libère et je lâche.
je libère et je lâche.
Toutes les colères, toutes les tristesses.
Toutes les colères, toute la tristesse.
Tous les sentiments d'impuissance.
Tous les sentiments d'impuissance.
Tous les désespoirs.
Tous les désespoirs.
Tous les découragements.
Tous les découragements.
Tous les sentiments d'humiliation.
Tous les sentiments d'humiliation.
Toutes les peurs.
Toutes les peurs.
Toutes les inquiétudes.
Toutes les inquiétudes.
En lien avec le manque.
En lien avec le manque.
En dessous des bras, je libère et je lâche.
Je libère et je lâche.
Toutes les malédictions.
Toutes les malédictions.
Et tous les attachements au manque.
Et tous les attachements au manque.
En dessous des seins, c'est normal d'avoir ressenti cela.
C'est normal d'avoir ressenti cela.
Le dessus de la tête, ce n'est plus obligatoire aujourd'hui.
Ce n'est plus obligatoire aujourd'hui.
Début du sourcil, je m'ouvre à la possibilité.
Je m'ouvre à la possibilité
d'être en paix avec le manque.
D'être en paix avec le manque.
Et le pas assez.
Et le pas assez.
Pourquoi suis-je libre de ce sentiment de manque?
Pourquoi suis-je libre de ce sentiment de manque?
En soleil. Pourquoi puis-je combler ce manque par moi-même?
Pourquoi puis-je combler ce manque par moi-même?
En du nez, pourquoi suis-je libre de ces images, émotions, pensées et sensations?
Pourquoi suis-je libre de toutes ces images, émotions, pensées et
sensations? Entre la bouche. Pourquoi ai-je une révélation?
Pourquoi ai-je une révélation?
Au sujet de mon abondance.
Au sujet de mon abondance.
Sous la clavicule. Pourquoi suis-je si comblée financièrement?
Pourquoi suis-je si comblée financièrement?
Et en fait, j'ai mal regardé parce que c'est pas financièrement que j'avais mis, c'est pourquoi suis-je si comblée finalement?
Pourquoi suis-je si comblée finalement, à tout point de vue?
En dessous des bras, je me souviens de moments de plénitude.
Je me souviens de moments de plénitude.
En dessous des seins, je me souviens de moments d'abondance.
Je me souviens de moments d'abondance.
Le dessus de la tête, je me connecte avec l'onde de plénitude et d'abondance universelle.
Je me connecte avec l'onde de plénitude et d'abondance universelle.
Début du sourcil, pourquoi ai-je un sentiment d'accomplissement?
Pourquoi ai-je un sentiment d'accomplissement?
Coin de l'œil. Pourquoi suis-je connectée avec le divin en moi?
Pourquoi suis-je connectée avec le divin en moi?
Et toute son abondance.
Et toute son abondance.
En dessous de l'œil, je me souviens de moments d'abondance.
Je me souviens de moments d'abondance.
Entre guillemets, je me souviens de moments de plénitude.
Je me souviens de moments de plénitude.
Je me sens connectée.
Je me sens connectée.
Ok, maintenant tu inspires, vous inspirez. Et vous expirez. Et bien voilà, ça c'était pour pallier déjà un petit peu au premier mythe.
Mais oui, ça commence déjà un bon ménage. C'est vrai que c'était lourd de parler toutes ces phrases de manque, de pas assez, et après, pouf, tu
oui.
Nous as amené ailleurs.
Voilà.
Abondance divine. Super. Alors, retournons-y. Quel est le deuxième mythe? Ça y est, tu vas encore nous amener dans ce truc pas glauque.
Non, en fait, je pense que le manque, c'est le pire. Ouais, l'idée, ouais. C'est le troisième mythe qui est le pire, mais vous vous jugerez par vous-même. Le deuxième, en tout cas, c'est l'idée que plus, c'est mieux. Plus de n'importe quoi est mieux que ce que nous avons déjà. C'est, disons, la réponse logique ou la suite logique à ce que il n'y a pas assez. Mm-hmm. Donc, ce plus, c'est mieux nous conduit dans une culture de compétition, d'accumulation, d'acquisition, d'avidité, qui ne fait en fait qu'augmenter la peur et accélérer la course. Donc quand on est constamment focalisé sur la chose suivante, la robe suivante, la voiture suivante, le job suivant, la maison suivante, les vacances suivantes, les prochains travaux, nous apprécions rarement ce que nous avons là maintenant. Dans cette relation à l'argent plus saigneux, eh bien, ça nous distrait de vivre plus complètement et plus richement ce que nous avons déjà. et surtout ce que nous sommes déjà aussi. Nous oublions beaucoup ce que nous sommes quand nous sommes très focalisés dans ce que nous voulons ou nous avons. Donc plus c'est mieux, c'est une chasse sans fin avec zéro gagnant. C'est comme un hamster dans sa cage tournante. Et en plus, et je confirme, le plus c'est mieux, ça devient addictif. Comme dans un processus d'addiction, c'est presque impossible de s'arrêter dans ce processus de toujours plus. On veut plus, quoi.
Autant augmenter la dose.
Oui, c'est ça. Mais si j'ai plus d'argent, mais pourquoi ne pas en avoir plus et avoir une marque de montre un peu plus grande, une marque de voiture un peu. Enfin, chaque fois d'aller plus loin, là, c'est un peu. Et on est pris là-dedans parce que oui, c'est ça dans cette société. Donc la chasse à plus c'est mieux, c'est quel que soit nos circonstances financières, hein, quel que soit notre niveau, mais on veut toujours plus. Ça exige notre attention, ça sape notre énergie, ça nous empêche de voir ou d'atteindre des opportunités d'accomplissement. Et en plus, quand nous croyons à ce plus c'est mieux, en fait, comme il y a toujours un plus plus loin, on peut jamais arriver au bout. Il y a pas. Puisqu'il faut aller chaque fois plus loin.
Il n'y a pas de fin à cette course-là. Ouais.
Donc, quand nous suivons ce credo consciemment ou inconsciemment, parce que bon, la plupart de nous, on fait ça inconsciemment, mais on fait tous ça à un certain degré, nous sommes en fait condamnés à une vie sans accomplissement. Nous perdons la capacité à arriver à cette destination qui, pour moi, n'est pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Et même ceux qui ont beaucoup dans cette culture de pénurie ne peuvent pas quitter cette course. Donc ce plus, le plus c'est mieux, nous emmène vers une définition de nous-mêmes en fonction de notre succès financier et des réalisations extérieures. Alors que beaucoup d'enseignements et d'enseignants spirituels nous disent de regarder à l'intérieur pour trouver l'intégrité que nous cherchons, mais cette chasse à la pénurie n'autorise aucun temps ou espace psychique pour ce genre d'introspection parce qu'on est pris dans cette espèce de matérialisme comme ça sert. Donc ce désir d'élargir notre bénéfice net nous détourne totalement de la découverte et de l'approfondissement de notre bénéfice intérieur, de notre valeur intérieure. Donc, on est devenu si matérialiste et influencé par ce côté yang d'avoir un défi à relever, alors qu'on a en fait tout ce qu'il nous faut dans nos pays industrialisés. Et si je suis le raisonnement de Lynn Twist, et je l'ai entendu ailleurs, c'est que nous allons devoir passer peut-être probablement par la décroissance, en espérant ne pas avoir une crise entre les deux, puisqu'on est, je veux dire, en tant que chacun des humains, mais chacune des familles, des sociétés, des entreprises, des pays, on est dans cette course folle. Donc, je pense qu'il va falloir arrêter la course folle. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on y aille doucement et que je pense que c'est pas anodin que Lynn continue à faire des conférences sur ce thème, puisque un film comme Demain existe avec des solutions économiques d'échange où on revient à l'échange mais qu'il y ait des monnaies locales ou qu'on ait un rapport à l'argent qui soit plus sain et plus respectueux. On en parle à la conclusion, mais donc parce que tel que nous allons dans ce plus c'est mieux, nous courons à une perte économique et écologique. Oui. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième mythe de plus c'est mieux.
Ok, alors j'aimerais que tu expliques le troisième mythe et on voit si on peut faire le tapping pour le deuxième et le troisième.
Ok, donc le troisième mythe, c'est l'idée que c'est comme ça. C'est-à-dire que la situation, quelle que soit votre... Oui, c'est ça, c'est un peu... Bon, quelles que soient vos circonstances, vous êtes né dans une famille d'ouvriers, ben c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Donc, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas assez. Plus, c'est définitivement mieux. Ceux qui ont plus sont toujours des gens autres que nous, en plus. On pense ça. Donc, ceux qui ont plus, ben, c'est eux, c'est jamais moi. Donc, on ne regarde pas en soi pour voir tout ce que j'ai. Les autres, l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, c'est comme ça. Et on ferait mieux. D'ailleurs, il faut mieux jouer le jeu. Parce que, voilà. Mais on est quand même alors dans un monde qui est... Si on se place dans ces circonstances un peu malheureuses, c'est que c'est comme ça. C'est qu'on est dans un monde désespérant, pas très généreux, sans aide, horrible, injuste. D'où on ne peut pas sortir de ce piège. Et en plus, c'est comme ça. C'est comme si ça justifiait l'avidité, les préjudices, l'inaction que le sentiment de manque sous-entend dans la relation à l'argent. Donc pendant des générations, ben oui, ça a perpétué l'esclavagisme. Tout comme moi, j'ai rajouté, elle l'a pas mis dans son livre, tout comme pour moi, l'infériorité des femmes, quoi. C'est comme ça. Tu es une femme, donc tu peux pas. C'est comme ça. Donc, à travers les siècles et l'histoire, et encore aujourd'hui, cette maxime, c'est comme ça, a permis à des dirigeants politiques malhonnêtes d'exploiter les autres pour leur propre gain financier. Donc globalement, ce mythe, c'est comme ça, a fait que ceux qui ont le plus d'argent ont usé de leur pouvoir et se sentent encouragés et autorisés à le faire et à continuer comme ça. Et malheureusement, quand un être est résigné, il abandonne son potentiel humain. Et c'est, selon Lynn, elle trouve que cette résignation, c'est la chose la plus difficile à bouger. Et elle dit, nous devons vouloir lâcher ce mythe, même pour un instant, pour considérer la possibilité qu'il n'y a pas de mythe que c'est comme ça ou que ce n'est pas comme ça. Il y a en tout cas la manière dont nous allons choisir d'agir et ce que nous choisissons de faire de nos circonstances. Puisque nos circonstances, donc si on a des circonstances qui sont pas top, qu'est-ce qu'on va faire avec ça plutôt que de se sentir figé, résigné dans le « c'est comme ça ». Il y a un choix, on peut passer à l'action, on peut faire des choses. On n'est pas obligé de bloquer dans le « c'est comme ça ».
Oui, quelles que soient les cartes distribuées au début du jeu, on peut être un bon ou mauvais joueur, on peut quand même faire quelque chose de ce potentiel qu'on a entre les mains.
Oui, absolument.
Ok. Alors, en conclusion, Caroline, comment on peut s'en sortir de ces trois mythes? Tu nous as déjà montré, on a bien soulagé le premier avec le tapping. Quelle est la solution?
Alors, la solution, c'est, je vais utiliser le terme suffisance et pas abondance, à dessein. C'est vraiment entrer dans la suffisance et entrer dans le assez.
C'est assez. Enfin,
c'est assez. C'est-à-dire que elle prend exemple sur une fondamentaliste, je ne sais pas exactement dans ce que ça veut dire dans ce cas-ci, j'ai pas été regarder la bio de Madame Dana Meadows, mais elle dit que les lois fondamentales de la Terre est la loi de assez. La nature, par exemple, nous donne exactement ce dont nous avons besoin, pas plus, pas moins. On a cette quantité de terre, la planète, elle a cette quantité de terre, elle a cette quantité d'eau, elle a cette quantité de soleil. Tout sur la Terre grandit à sa taille appropriée et puis à un moment donné, ça s'arrête. La planète ne grandit pas, mais elle s'améliore. Mais les choses, oui, les arbres, ils vont pas continuer à grandir jusqu'à la stratosphère. Les arbres, enfin, tout a une taille et s'arrête à un moment donné. Et c'est un peu pareil pour nous avec les moyens. L'abondance existe, mais elle découle de cette suffisance dans une expérience de beauté de ce qui est, de ce qui existe. L'abondance est un fait de la nature. Il y a assez, mais il y a aussi une finitude à cette abondance. C'est pas comme un truc infini auquel on va courir. Et cette finitude n'est pas une menace. C'est juste pour dire qu'il y a une limite à des ressources et qu'on doit les respecter. Et je pense à ces grosses sociétés qui n'arrêtent pas de couper nos ressources les arbres de la forêt amazonienne. Donc, simplement, cette abondance a une finitude. Et il faut respecter ça pour avoir du respect, de la révérence pour ces ressources et de les gérer au mieux en sachant que c'est extrêmement précieux et que ça va apporter du bien à la plupart. Et je pense encore une fois à la forêt amazonienne. C'est de ne pas respecter et d'avoir une espèce de vue à court terme et de toujours être dans le toujours plus et d'avoir plus d'argent. Alors qu'en fait, la nature nous met tout à disposition et que nous n'avons pas toujours respecté. Nous n'avons pas respecté cette finitude de l'abondance. Tout est là pour nous.
Et il y en a assez.
Et absolument. Mais c'est là. Il y a assez pour tout le monde. Mais il faut le faire dans un respect. Et aussi, donc, je dirais en conclusion que bien aller voir à l'intérieur, bien soigner ce qu'il y a à l'intérieur et puis respecter les ressources. Voir les ressources qu'on a à l'intérieur et puis respecter les ressources qu'il y a à l'extérieur.
Waouh, super, que de richesse.
Voilà, Maria.
Merci Caroline, merci pour toutes ces pistes partagées. On va aller voir du côté des questions des auditeurs.
Parfait, je suis ouverte à écouter et répondre.
Super, merci Caroline, à tout de suite dans le chat.
Merci Maria, à tout de suite.
Et voilà, le chat est ouvert.
Oui, super. Posez vos questions à Caroline.
Magnifique conférence sur l'âme de l'argent.
Super.
La conscience d'abondance.
Alors, on va commencer.
Vous avez bien fait le tapping, l'abondance commence.
Ça y est, les cadeaux vont pleuvoir.
L'abondance, c'est maintenant.
Ouais, exactement.
Donc, pour pouvoir accéder à cette grande abondance, encore plus, encore mieux, on va commencer par donner. Et on va faire des cadeaux, on va vous offrir un pack. Donc, deux packs. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces packs? Ce sont des packs qui sont téléchargeables. Il y a 14 conférences. Les 14 conférences, aujourd'hui, nous sommes à la 11e. Avec Caroline Burel tout à l'heure, on sera à la 12e. Et demain, ce sont les dernières. Alors, dans ces packs, il y a les 14 conférences de nos merveilleux conférenciers.
Bien sûr, les moments merveilleux d'interaction en direct, questions-réponses.
Voilà, qui sont enregistrés et qui seront dans ces packs-là. Il y a les retranscriptions des PDF en PDF.
Mais pas tout de suite. Laissez-nous quelques jours pour les effectuer. Il y a des gens qui nous écrivent directement après le direct, qui ont acheté le kit et qui disent « Je comprends pas, il n'y a pas de PDF ». Ben, c'est une transcription en fait, donc il faut le temps de les faire.
Voilà.
C'est un boulot énorme.
Nous avons une gentille équipe qui écoute les conférences et qui sont en train de les retranscrire pour qu'on en ait une trace écrite sur papier. Donc voilà, vous aurez les 14 PDF, il y a des bons de réduction sur les différents programmes, ateliers, produits de nos experts. Et tout ça, si vous ne l'achetez pas, vous pouvez l'acquérir au prix de 3 x 39 € ou 117 € si vous payez cash. Et puis notre ami Bertrand, le web magicien, nous a créé un nouveau produit qui est le méga pack pour les gens qui découvrent le congrès cette année et qui n'ont pas acheté les différents congrès. Sachez que vous pouvez acquérir tous les congrès de 2012 à 2015. 2012, 13, 14, 15, 4 fois 14 conférences avec les bonus, etc. 4 fois 14 conférences, ça fait vraiment beaucoup d'écoute. C'est des trésors et ce trésor, vous pouvez l'acquérir au prix de 349 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà ce que je pourrais dire. On reçoit de plus en plus de messages de remerciements pour ces congrès. Ça nous touche profondément à chaque fois.
Continuez, on n'est pas encore débordé. Hein.
Notre intention à travers ce congrès, c'est d'amener l'EFT au plus grand nombre et c'est pour ça que c'est gratuit pendant 24 heures. C'est pour ça aussi que toute cette valeur, nous la vendons 117 € et pas plus. On a eu le choix entre faire ce congrès payant ou de l'offrir. Et on s'est dit, on va faire les deux. On va l'offrir. Et puis, pour ceux qui ont les moyens de participer financièrement à ce que ça existe, on va offrir des packs. Et de plus, plus vous écoutez ces conférences, plus vous pouvez vous en imprégner et plus votre changement sera facilité.
Oui, tout à fait. On appelle ça des conférences, mais en fait, c'est tellement plus. Il y a une démonstration à chaque fois, il y a des prises de conscience qui se font. C'est un espèce de joyeux méli-mélo de séances, formations, conférences. Caroline nous a raconté la merveilleuse histoire de Lynn et de Gertrude. Et le CEO de cette grande compagnie, c'est vraiment une belle histoire. Donc il y a tout ça dans ces 14 conférences, plus les bonus. Voilà, vous irez voir, c'est vraiment le coffre à trésor.
C'est l'abondance,
c'est merveilleux.
C'est l'abondance pour 117 €.
Alors, cette abondance va partir, ça doit être celles qui ont le mieux tapoté, hein. Je ne sais pas si elles sont là en direct.
Non, ça n'a rien à voir.
Bon, et ben le pur hasard a choisi Marianne H. Je n'en dis pas plus, mais je sais qu'elle sera très contente. Et Saïda S, que je sais nous écoute depuis le Maroc. Donc bravo Marianne et Saïda.
Magnifique, super.
Deux packs privilèges PDF à télécharger et les PDF donc disponibles d'ici quelques jours encore.
Laissez les filles travailler et elles y sont tous les jours et croyez-moi les doigts.
Et même un peu les nuits.
Sur les claviers. Il y a André qui nous dit j'ai acheté un pack mais j'ai payé 157 €, me suis-je trompée? Alors le pack à 157 €, c'est le pack que nous faisons gagner, c'est le pack où il y a les PDF à l'intérieur. Ouais. Mais pour pouvoir offrir un produit à un plus petit prix, il y a un pack à 117 € où il y a toutes les conférences, les bonus et les cadeaux, mais il n'y a pas les PDF et ce pack-là, sans les PDF, est à 117 €. Donc, ce n'est pas une erreur de votre part, André, il y a deux produits différents.
Voilà, pendant ce temps-là, Caroline a commencé à lire les questions, je pense. Donc, Caroline, je vais rouvrir ta ligne pour que tu reviennes parmi nous. Vas-y, Caroline, c'est à toi. Peut-être que tu avais coupé le micro de ton côté dans le Skype. Parce que là, pour l'instant, je ne t'entends pas. Allô, Paris à Bruxelles, Paris à Bruxelles, Caroline.
Nous avons perdu Caroline.
Non, non, elle est là, je la vois.
Manipulation.
Je la vois. Peut-être que... Bon, elle va sûrement arriver. Caroline, si tu nous entends.
Est-ce qu'elle aurait coupé son micro?
Oui, peut-être que tu as coupé ton micro de ton côté dans ton Skype. Moi, j'ai ouvert la ligne en tout cas. Tu devrais pouvoir nous parler. Bon, continuez à envoyer vos questions pendant ce temps-là.
Donc, il y a un petit problème avec le Skype, me dit Caroline. Elle D'accord. va quitter et revenir.
Ok.
Bon. Très bien, notre Caroline va répondre à toutes vos questions sur l'abondance, la pénurie,
le manque, la richesse. Parce que comme on a dit, l'abondance, bien sûr, ce n'est pas que une question d'argent. Il y a beaucoup de formes de richesse. Et voilà, oui, elle se prépare, elle va nous revenir. Sûrement. Bon, c'est un premier petit couac technique. Alors, 11e conférence, c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Ce congrès a été créé en 2011.
Ah. Ça y est, je crois qu'elle est là.
Et nous sommes Est-ce que vous, vous m'entendez?
Oui, vous m'entendez? J'attends, Caroline. Super, merci.
Ok, j'ai juste, parfois ça arrive, j'ai lu cet après-midi... Donc, parfois, je dois éteindre et rallumer mon Skype. Je suis là pour les petites questions.
Formidable. Alors,
la première, c'est y a-t-il une ronde pour pallier au deuxième et troisième mythe? Mais nous les avons gardés pour l'atelier qui vient avec les packs.
Oui, donc, c'est le bonus. C'est effectivement, soit dans ton kit, donc la conférence à l'unité, ou le pack complet avec les 14 conférences.
Alors, pour la question suivante, merci. Ma fille de 7 ans est tout le temps de plus, c'est mieux. Elle est insatiable de réussir alors qu'on ne lui met pas la pression. Elle est pourtant brillante. Que puis-je faire pour l'aider? Ben, moi, je lui demanderais pourquoi est-ce que tu veux tant réussir? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de réussir? Ou il faut lui poser la question. Et puis voir, parce qu'il y a peut-être quelque chose caché. Elle fait ça peut-être parce que... Elle pense que si on l'aime, peut-être que si elle ne réussit pas, on va pas l'aimer ou quelque chose comme ça. C'est parfois des conclusions que les enfants font sans qu'on sache pourquoi. Ils ont vécu quelque chose et ils ont décidé que sans doute elle n'aurait pas de crédit à vos yeux si elle réussissait pas aussi bien, aussi brillante qu'elle puisse être. Donc ce serait ma réponse à votre question d'Audie. Et puis, en fonction de la réponse qu'elle va vous donner, je tapoterai là-dessus. Voilà. Alors, je ne comprends pas très bien cette question. Comment intégrer vraiment ce que nous savons intellectuellement? Aidez-moi, Maria et Noël, parce que je ne sais pas comment...
Je pense que la question, c'est... Il y a des choses que je sais. Par exemple, je sais que je ne devrais pas m'inquiéter.
Je sais avec ma tête qu'il n'y a pas de manque, que la nature est abondante,
mais mes émotions sont inverses.
D'accord. Si on le prend comme ça, alors c'est vraiment, on se branche pas du tout sur le cerveau gauche, on va se brancher sur le cerveau droit. Et une manière de ne pas justement faire aller ce qu'on appelle le mental, c'est éventuellement de dessiner vos angoisses financières, de dessiner ce qui ne va pas émotionnellement, et même à la limite, même le dessiner avec votre main gauche, parce qu'alors ce sera vraiment votre cerveau droit avec toutes les informations, et tapoter sur, vous pouvez mettre par exemple, vous faites un premier dessin sur ce qui vous inquiète sur les finances. Et vous mettez un titre à ce dessin, comme un peintre met un titre à une œuvre. Et puis vous tapotez, même si j'ai ce dessin, par exemple, qui va s'appeler boule de neige, hein, je mets n'importe quel titre, je m'accepte totalement et profondément. Et vous tapotez en regardant le dessin, tout simplement, boule de neige. Et sur tous les points, vous dites boule de neige, boule de neige, boule de neige, boule de neige. Voilà, jusqu'à la fin de la ronde. Puis vous retournez le dessin et sans parler, sans réfléchir, vous refaites un dessin en repensant au problème que vous aviez abordé juste avant, sous vos angoisses, sur la problématique. Et puis vous faites des rondes avec des dessins jusqu'à ce que le dessin vous paraisse harmonieux. Et puis vous réévaluez votre stress ou votre inquiétude au niveau financier, à la fin de des ronds de tous ces dessins. Donc ça, c'est inspiré, cette manière du picture tapping. Je pense qu'il y a quelques années, quelqu'un avait fait la conférence à ce sujet.
Non, on n'a pas eu de personnes qui nous ont parlé du picture tapping. Je l'avais entendu parler et j'adore ce que tu viens d'expliquer. Je ne connaissais pas.
Oui.
Magnifique. Est-ce qu'il faut faire plusieurs dessins?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais un premier dessin, oui. Tu tapotes en disant « même si j'ai ce dessin, je m'accepte totalement et profondément ». Sur chaque point, tu tapotes en regardant le dessin, tu dis « la boule de neige » si c'était le titre. Et puis, à la fin de la ronde, tu refais un dessin sans parler, sans discuter, juste tu passes du dessin à une ronde jusqu'à ce que le dernier dessin te paraisse harmonieux.
D'accord. Mais je peux faire 3, 4, 5 dessins.
Ah oui, ça peut être même 10.
D'accord. Génial. Je vais faire ça dès demain. Après-demain.
C'est tout à fait génial et je l'utilise en EFT, mais vous pouvez l'utiliser en n'importe quelle technique de psychologie énergétique, en fait. Ce qui est génial, c'est que ça fait monter, comme dit Johanna, ça empêche d'être dans l'intellectuel et d'être dans le cerveau gauche analytique.
Super, merci Caroline.
Alors, la question suivante de Florian, de 074, là. Merci, comment aller en profondeur sur notre abondance financière? Mais vous me parlez là d'un programme, Florian. Je ne sais pas répondre en 2 minutes, parce que l'abondance financière, c'est pouvoir se mettre des objectifs, c'est enlever tout le négatif qui est lié à tout ce qui est manque, mais que ce soit autant affectif que manque financier, que tous les manques dont j'ai aussi parlé ce soir. Mais c'est aussi, comment créer ce sentiment de ressources intérieures. C'est vraiment, j'ai un programme de 100 jours à ce sujet. Je peux juste vous dire ça parce que c'est pour vous dire que c'est pas en un claquement de doigts. Parce que votre question, c'est comment aller en profondeur sur notre abondance financière. C'est lire des livres. Et puis, quand vous sentez des blocages, vous tapotez sur certains passages des livres. Enfin, il y a beaucoup de manières différentes d'aller en profondeur sur notre abondance financière. Donc, je ne sais pas trop comment vous répondre plus que ce que je viens de vous dire pour aller en profondeur sur votre abondance financière. Alors, Pax me demande, est-ce que la valeur de l'argent correspond à la valeur que j'accorde à aimer? Eh bien, ça peut être oui, je pense que je l'ai déjà vu par rapport à la valeur que je me donne et que j'accorde à aimer. Alors, ça peut être que j'accorde à m'aimer, hein, ça par rapport à ma valeur personnelle. Et forcément, comment je m'aime va se manifester, comment j'aime les autres. Si je m'aime de manière inconditionnelle, je vais aimer de manière inconditionnelle et je ne vais probablement pas avoir de problème avec la valeur de l'argent. Alors, la question suivante. Alors, comment tapoter quand on ne peut pas accepter d'argent, mais je veux me mettre à mon compte, manque de confiance en moi et de mes compétences, aidez-moi. Exemple de tapping. Titi, moi, ce que je dirais, si la croyance, c'est « je ne peux pas accepter d'argent », si vous réfléchissez à cette notion de « je ne peux pas accepter d'argent », qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que vous avez vu vos parents, grands-parents, ne pas accepter d'argent? Est-ce qu'on vous a dit que c'était pas bien d'accepter d'argent, qu'il fallait surtout donner? Et donc, en explorant tout ce qui concerne « je ne peux pas accepter d'argent », vous allez voir émerger des souvenirs, vous allez entendre peut-être la voix d'un curé, d'un professeur, de vos parents qui disent que qu'il vaut mieux donner que recevoir ou que accepter. Et donc, je ne peux pas vous donner un exemple de tapping parce qu'ici, vous allez vraiment, ce qui est important, c'est de tapoter sur les différents déclencheurs, souvenirs qui vous ont fait croire que vous ne pouviez pas accepter d'argent. Donc effectivement, avant de vous lancer à votre compte, c'est sûr qu'il va falloir apprendre à accepter l'argent en abondance et être à l'aise autant avec le donner que le recevoir. Donc, et le manque de confiance en soi, c'est un autre sujet, exactement le même que je ne peux pas accepter d'argent, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que vous avez entendu un de vos éducateurs? Donc, dans les éducateurs, j'englobe tous les gens qui vous ont élevé, donc et qui ont dit « t'es nul en maths », t'es nul en ci ou t'es pas assez bien ou une institutrice vous a moqué devant toute la classe, eh bien tous ces souvenirs différents, il faut les tapoter juste pour pouvoir casser ce manque de confiance en vous donc et dans vos compétences. Donc un exemple de tapping, je vous dis, cette problématique pour moi ça vaut 50 tappings éventuellement. Ça c'est pour Titi qui me posait cette question.
C'est important ce que tu viens de dire, Caroline, c'est que je croise quelques personnes qui disent « Oh, j'ai travaillé en EFT, ça n'a pas marché pour moi. » Et quand on les interroge un peu plus avant, on s'aperçoit qu'ils ont tapoté sur 10 rondes. Oui. Et voilà. Et on ne rappellera jamais assez la persistance, la persévérance, le travail que ça peut demander de lever ces blocages.
Exact.
Tu dis que tu as un programme sur 100 jours, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai un programme sur mon blog Bien-être et Prospérité. Ça s'appelle Prospérité et Réussite Intensif. Et je vous prends par la main pendant 100 jours pour travailler. Alors, plusieurs séminaires en présentiel que j'ai filmés où on explique la loi d'attraction. Comment, d'ailleurs, à ce séminaire, je pense que Noël et Maria se sont rencontrés pour la première fois en vrai.
Exactement.
À Paris, à ce séminaire. Ouais. Et donc, c'est ce séminaire que j'ai donné 18 fois avec mon ancien collègue Grégory. Et donc, on a filmé ce séminaire et donc, on explique un objectif et puis tous les oui-mais qui viennent quand on se met un beau rêve. Et il y a toute une partie de nous qui ne s'autorise pas et donc, on travaille en EFT, sur ses rêves, il y a des méditations guidées, de la magnétisation de l'objectif. Et puis après, j'ai fait une série de 90 vidéos où pendant chaque jour, vous avez une vidéo différente chaque jour pour enlever le plus de freins possible à l'abondance. Donc là, c'est vrai que si vous voulez aller travailler en profondeur, et puis il y a encore d'autres rondes dans ce programme, et disons que ça, c'est les choses principales que je vous dis rapidement, et à peu près toutes les personnes qui m'ont donné un témoignage ont toutes, n'ont plus du tout d'angoisse financière et ont regagné une confiance par rapport à l'argent et donc sont tous surpris quand ils ont des bonnes surprises financières, des cadeaux, j'ai vu tout à l'heure une dame dans le chat qui disait qu'elle était encore un peu en dents de scie. Quand ça allait bien, elle avait trouvé, ben, j'ai ça. C'est la quête qu'il est marqué, tantôt, je trouve un billet de 20 euros par terre. Oui. Voilà. Et puis, quelques minutes après, culpabilité, sentiment de ne pas mériter et qu'on va me le voler. Alors ça, c'est typiquement, eh bien, déjà, dans une phrase, je vois au moins quatre choses à tapoter. Donc, le sentiment de culpabilité, depuis quand est-ce que vous avez ce sentiment de culpabilité? Pourquoi? Qui vous a donné ce sentiment de culpabilité? Quelle petite voix avez-vous dans votre tête? Donc ça, c'est pour soigner la culpabilité. Le sentiment de ne pas mériter, ça, c'est vraiment aussi. Qu'est-ce que vous ne méritez pas? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la joie? Et puis, qu'on va me le voler. Donc, qui avez-vous vu dans votre histoire de vie qui a été volé et que vous avez peur que ça vous arrive à vous? Et donc, il faut tapoter sur tout ce qui est tous ces souvenirs-là en lien avec ces trois thèmes de culpabilité, sentiment de pas mériter et sentiment qu'on va me le voler. Donc, voilà.
Alors, merci Caroline. Donc, pour les gens qui voudraient rejoindre ton programme, allez sur bien-être et prospérité. Et après la conférence, comme à l'habitude, cette page se transformera en page de réécoute. Vous aurez un endroit pour laisser des commentaires à Caroline. Et Caroline ira répondre, vous donnera l'adresse exacte de ce site, oui, avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir et la contacter et la rejoindre si le cœur vous en dit.
Voilà. Alors, j'ai Jamila qui me pose une question que quelqu'un m'a déjà posée. Y a-t-il une ronde EFT pour attirer l'abondance? Il n'y en a pas une, il y en a plein. Et vous pouvez vous baser sur des affirmations positives que vous tapotez pour attirer l'abondance. Si vous n'avez pas de frein, vous pouvez passer directement à de l'EFT, ce que j'appelle l'EFT positif, si vous voulez, Jamila. Mais il faut d'abord vérifier qu'avant ça, vous n'y ayez pas des « oui mais » ou « je n'y ai pas droit, je ne le mérite pas », cette culpabilité, exactement comme la dame qui avait trouvé 20 euros par terre et puis qui avait un sentiment de culpabilité ou de ne pas le mériter. Donc, je dirais que ça n'existe pas une seule ronde. Vous pouvez vous construire une ronde par semaine que vous tapotez pendant une semaine ou bien une ronde par 21 jours, une ronde positive si vous voulez attirer l'abondance et ou des objectifs financiers spécifiques. Eh bien, vous pouvez faire par exemple une ronde pendant 21 jours. Alors, les rondes pour travailler les deuxième, troisième mythes, ça j'ai déjà répondu. Il y a peu, j'ai eu une rentrée inattendue de 619 euros. Et le lendemain, une panne auto qui a coûté 617. Mais j'ai eu une réaction négative de me plaindre de ne pas avoir pu le mettre dans un stage. Mauvaise réaction. Alors oui, ça c'est vraiment typiquement, surtout avec des chiffres aussi proches, c'est qu'il y a une partie de vous qui pense que vous n'avez pas droit à l'abondance ou quelque chose de similaire, Patty. Donc, pour pouvoir faire ça, puisque chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre, ça ressort, c'est de tapoter là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous pensez que vous ne le méritez pas? Il y a quelqu'un qui vous dit ça? Ou qu'est-ce qui fait que... excusez-moi, c'est parce que j'ai vu un message sur Skype et je voulais être sûre de l'avoir vu. Bien travailler la raison pour laquelle vous pensez que vous ne méritez pas d'être dans l'abondance, d'avoir cette rentrée inattendue. Est-ce que vous avez, encore une fois, vous avez vu ça autour de vous? J'ai eu une réaction négative de me plaindre. Alors, oui, si vous vous êtes d'abord plainte, ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas dans la gratitude et la reconnaissance de ces 619 euros. Et moi, ce que je vous conseillerais même pour la panne d'auto qui a coûté 617 euros, c'est de remercier cette panne auto pour tout ce que ça vous apprend, ça vous a permis de poster dans le chat, et ce que ça vous apprend sur vous et l'abondance, et qu'il y a peut-être une mémoire, donc soit il y a une mémoire, raison pour laquelle je ferai de l'Oponopono et de l'EFT, c'est de dire à cette mémoire, merci de t'être présenté à moi. Donc, il y a quelque chose qui est... Cette mémoire, vous ne devez même pas savoir d'où elle vient et depuis quand. Simplement de dire à la mémoire, merci de t'être présenté à moi et je t'aime. Et puis, vous pouvez tapoter là-dessus et aussi tapoter de toutes vos réactions négatives à ce sujet. Et vous verrez que vous aurez d'autres surprises, bonnes surprises qui vont arriver. Donc deux choses. Une première chose, c'est de tapoter sur le mérite d'avoir de l'abondance, d'être dans l'abondance. Est-ce que vous le méritez? Est-ce que vous aviez droit? Est-ce que c'est possible? Donc, si vous répondez oui à ces questions, eh bien, de nettoyer une mémoire qui fait qu'il y a encore pas exactement ce que vous voulez qui se passe dans votre vie, en disant, vraiment vous focalisez sur votre cœur, en disant, voilà, j'ai cette mémoire où cet argent repart. Merci mémoire de t'être présentée à moi et je t'aime. Et si vous faites ça plusieurs fois, vous verrez que d'abord, quand on est connecté dans le cœur, on est plus dans une vibration de gratitude. Et donc, la gratitude amène l'abondance. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille, Patty. Alors, Florian, comment travailler sur son abondance à un prix accessible? Eh bien, si vous cherchez bien, ben voilà, mon programme, il y a une version light, il y a une version plus lourde. Donc, vous trouverez sûrement ça sur le site Bien-être et Prospérité. Il y a des ateliers, vous verrez, il y en a un qui est Prospérité, Réussite Intensif, et un autre qui s'appelle Avantage, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, Sylva Lavie. Eh bien, Sylva Lavie, quand vous dites « j'ai fait un burn-out, j'ai été mise en inaptitude professionnelle, je ne touche rien pour le moment, comment faire pour ne pas subir de manque dans cette situation ?» Eh bien, je vous répondrai, Sylva, que je tablerai sur tout ce que vous, sur la conscience de votre abondance actuelle. C'est-à-dire, est-ce que si vous n'êtes pas SDF dans la rue, et même si vous étiez SDF, je vous dirais, focalisez-vous sur votre abondance de vie, sur l'abondance de ciel, sur l'abondance de nature, d'être focalisé sur ce qu'il y a déjà dans votre vie. Si vous avez un toit, si vous avez une cuisine, si vous avez un lit, si vous avez une assurance, si vous avez une mutuelle, si vous avez tout ça, eh bien, focalisez-vous sur tout ce que vous avez déjà et ayez de la gratitude pour ça. Remerciez le ciel d'avoir ça, remerciez le ciel d'avoir de l'électricité, d'avoir le métro que vous pouvez emprunter, des routes qui sont faites. Il y a des pays où les routes n'existent pas, où les gens vivent dans des huttes ou dehors. Donc, remerciez tout ce qu'il y a et comme ça, vous n'allez pas être dans le manque. C'est comme si vous éclairiez sur une scène de théâtre. Il y a tout ce qu'il n'y a pas et puis tout ce qu'il y a. Et c'est comme si vous mettiez un projecteur sur tout ce qu'il y a dans votre vie déjà. Et vous pouvez aussi vous focaliser dans l'idée de la conférence. Et qu'est-ce que vous avez comme ressources intérieures déjà? Quelles sont vos qualités? Focalisez-vous sur ce que vous êtes de bien en vous-même. Qu'est-ce que vous avez comme qualité? Et focalisez-vous sur vos qualités. Parce que quand on se focalise sur le bon, eh bien le bon augmente. Que ce soit le bon de qui je suis ou le bon de ce que j'ai. Ça, c'était pour Sylva Lavie. Alors, nous avons besoin d'un minimum pour vivre, ne pas vivre dépendant des aides publiques. Nous sommes toutefois tributaires des grands. Alors, ne pas gaspiller tous les jours, faire attention. Voilà ce qui fait mon stop à la course et encore recevoir des invités, des amis à la maison. Merci de votre avis. Ah, d'un minimum pour vivre, ne pas vivre dépendant des aides publiques. Nous sommes toutefois tributaires des grands. Je ne comprends pas très bien le commentaire de Béa qui fait mon stop à la course. Et encore, reçoit des invités, des amis à la maison. Merci de votre avis. Je suis désolée, je ne comprends pas trop bien, Béa, ce que vous voulez dire. Vaguement, mais si vous êtes vraiment dans un sentiment d'âme...
Béa peut mettre des précisions.
Pardon, Maria?
Tu peux passer cette question-là et peut-être que Béa peut mettre des précisions.
Non, eh bien, Mazal, vous avez très bien compris qu'il ne faut surtout pas répéter « je n'ai plus un rond, je n'ai pas de sous pour l'instant, ou je ne peux pas, ou je n'ai pas de sous ». Simplement, vraiment, focalisez-vous sur ce que vous avez. Si ce n'est pas des sous, vous avez plein de choses en vous et à vous déjà. Alors, Caroline, je fais tous les jours une retour d'argent, mais malgré tout, l'argent ne vient pas, mais les opportunités, oui. Eh bien, où se trouve le blocage? Ben, je ne sais pas si vous avez les opportunités. Ça dépend si vous prenez les opportunités ou pas. Ok. Je ne sais pas très bien où est votre blocage. Si vous me dites que vous avez les opportunités, si vous les prenez, ça devrait vous amener de l'argent, en toute logique. Alors, je regarde vos questions parce que je lis, je réponds, et puis il faut voir à quel...
Je regarde en même temps que toi, Caroline.
Oui. Alors, je ne vais pas répondre aux points qui concernent l'EFT, mais beaucoup plus sur l'abondance. Je trouve qu'il y a le thème de la,
Oui, tout à fait. Il y a le kit d'initiation dans les ressources. Il y a des gens qui sont inscrits au dernier moment, qui sont inscrits aujourd'hui, donc vous n'y avez peut-être pas encore eu accès, mais vous pouvez aller le voir tout à l'heure. Profitons plutôt de cette expertise précise de Caroline.
Alors, Madil qui dit la boulimie de toujours avoir pu chez deux jeunes ados est-elle consécutive au déséquilibre familial qu'ils vivent probablement et peut-être des choses plus anciennes aussi. Le côté addictif qu'on peut avoir, que ce soit pour Facebook, pour manger, pour faire des choses, c'est pour ne pas sentir des choses qui sont désagréables. Donc, pour quel tapping faire s'ils acceptent? S'ils acceptent, c'est d'avoir une... moi, je dirais, avant de faire du tapping, c'est de vous mettre, de provoquer des moments de discussion, soit avec chacun individuellement ou avec les deux, de voir qu'est-ce qui est difficile pour eux dans cette situation, ce déséquilibre. Qu'est-ce qui est pour eux le plus difficile par rapport à vous, la maman, ou par rapport au papa. Qu'est-ce qui est vraiment difficile parce que, je ne sais plus qui me disait hier, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc déjà, s'ils peuvent déjà l'exprimer, c'est d'abord de rentrer en contact. Parce qu'avant de tapoter, il faut toujours un bon contact avec nos clients, fussent-ils nos enfants. Donc avant de vouloir les tapoter à tout prix, moi je créerais d'abord une belle relation de confiance et des échanges réguliers à propos de ce déséquilibre familial. Alors, merci Caroline. Tu dis que l'on peut tapoter sur un passage de livre. Que doit-on dire en tapotant dans ce cas? Merci. Alors, si dans un livre que on vous dit qu'il faut faire du marketing et que vous avez du mal avec le marketing, et bien vous tapotez sur l'idée, même si j'ai du mal à faire du marketing, et c'est pourtant ce qui est dit dans ce livre, je m'accepte totalement et profondément. Alors, Catel qui dit « On doit travailler dur pour gagner de l'argent, est-ce vraiment vrai ?» Alors, moi je dirais qu'il y a une partie de vrai et puis une partie de faux, c'est-à-dire que pour établir parfois un programme pour pouvoir gagner de l'argent à un moment donné de manière automatique, il faut établir ce programme. Il faut mettre en place des tas de choses, donc ça nous demande de travailler dur, en tout cas pendant un moment. Toute sa vie, je dirais pas. Donc c'est vraiment une croyance qui peut être travaillée. Mais c'est vrai que quand on a un objectif à atteindre, qu'on veut certains résultats, eh bien pendant un temps, il faut travailler dur. Donc, mais vous pouvez travailler, vous pouvez faire du tapping sur l'idée d'où ça vous vient, cette idée de travailler dur. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui travaillait dur? Et voir et travailler sur ces souvenirs-là pour supprimer ça de votre système. Comme ça, vous serez beaucoup plus libre de vous sentir enclin à travailler pour réaliser un objectif et pas simplement travailler à la sueur de son front, simplement du temps contre de l'argent. Alors, Magotis, comment développer son entreprise dans la prospérité avec l'EFT? Donc ça, c'est moi, je renverrai vers mon programme puisque c'est vraiment une très, très large question. Donc, je vais plutôt aller à la question suivante. Les blessures d'argent remontent dès l'enfance, du moins pour moi. Est-ce que l'EFT suffit? Pourquoi ne pas parler d'access les barres afin d'éliminer les mémoires profondes? Car seul le tapping suffit-il? Eh bien, Mivrine, j'ai entendu hier, je ne sais plus quand... Noël qui répondait lors d'une discussion de chat qu'il y avait des choses où c'était que Louise Gervais avait utilisé une autre technique de psychologie énergétique pour sa phobie de l'araignée. Eh bien oui, ça c'est un peu, chaque personne est différente, était unique dans sa manière de transcender ses défis et ses problématiques. Donc les blessures de l'argent remontent dès l'enfance, du moins pour moi. Moi je pense que vous pouvez commencer par l'EFT. Si vous avez accès à Access Bar, pour moi c'est bon aussi, je ne suis pas exclusivement EFT, c'est ici qu'on est dans le congrès EFT, et que moi, ça a été ma technique phare pendant des années, donc je l'utilise encore au quotidien, même si on a d'autres que j'ai apprises depuis. Alors voilà.
Tu fais pas que de l'EFT, Caroline,
Je fais plus de TAT, sauf quand j'en fais avec Tapas la créatrice. C'est la seule fois où je fais du TAT. Ça, c'est quand c'est pour moi, parce que j'aime bien avoir affaire à la créatrice de la méthode, parce que je la trouve exceptionnelle dans sa présence au moment des séances. Et puis sinon, je fais aussi la logosynthèse parce que je trouve que c'est géant. Donc, voilà. Donc,
il n'y a pas que le ST dans la vie, il y a le ST dans la vie, c'est une évidence. Oui. Voilà, il y a ce congrès qui existe pour transmettre le ST, mais évidemment, ce n'est pas la seule méthode efficace. Il y a Access Bars, il y a...
Oui, c'est ça. La seule chose, c'est que je veux dire que le tapping, j'y reviens toujours quand je travaille sur moi, parce que vraiment, le côté corporel, le fait de se toucher, de tapoter les méridiens... Et on peut faire de l'humour avec l'EFT, que je trouve qu'on peut pas faire trop avec les autres méthodes, et que je trouve quand j'étais à Casablanca il y a un petit mois et que j'ai fait tapoter 550 personnes, je trouve que c'est géant. Ouais. Je sais pas, ça, il y a quelque chose de, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'énergie qui bouge. Ouais. Et donc voilà. Alors, c'est la question suivante. Peut-on se sortir d'un cercle vicieux où la famille a toujours été fauchée avec des soucis d'argent, même avec beaucoup de travail? Oui, bien sûr qu'on peut se sortir d'un cercle vicieux où la famille a toujours été fauchée. Moi, je conseillerais en parallèle, alors c'est-à-dire que je travaillerais alors, je ferai un dessin de votre arbre généalogique, donc il faut poser des questions à votre famille, et je tapoterai sur les différentes branches ou personnes précisément qui ont eu des problèmes avec l'argent. Et au-delà de ça, je ferai aussi un travail en constellation familiale. Je trouve que c'est complémentaire, quoi, ça, avec l'EFT. Je trouve que c'est vraiment, il y a des choses qui vont se dégager, qui ne, je trouve, ne se dégagent pas toujours en EFT. Voilà. Mais vous pourriez faire déjà, rien qu'en dessinant votre arbre généalogique et en ayant des infos avec tous les gens qui ont eu des problèmes, où la famille, enfin, toutes les branches ont été fauchées, et aussi de travailler sur tout ce que vous avez imaginé que ces gens ont vécu, avec tous les détails des histoires, que ce soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance, mais toutes ces images, de tapoter là-dessus. Je me souviens que lors d'un séminaire, j'avais une dame qui venait, je ne sais pas si c'était des Antilles, enfin, de ces îles-là, et elle a eu, en tapotant sur son abondance, des images de ses ancêtres qui avaient été des esclaves. Et donc, le fait de tapoter ça lui libérait de ses esclaves qui n'avaient pas le droit à l'abondance. Donc, je travaillerai sur ces choses de la famille. Alors, Marguerite, pourquoi une personne s'endette pour les autres et n'accepte pas de recevoir? Eh bien, parce qu'elle a une croyance que je n'ai pas le droit de recevoir, je ne mérite pas de recevoir. Et c'est bien d'aller voir, en tapotant parfois à partir de cette croyance, pourquoi elle n'arrive pas à recevoir, et dire « je n'arrive pas à recevoir parce que », en tapotant le « parce que » sur chacun des points. Et vous pouvez le faire à haute voix ou à voix silencieuse et voir ce qui vient. Et ce que je ferai aussi, je ne mérite pas de recevoir parce que, et je demande à mon inconscient de me donner une info sur les raisons pour lesquelles je ne peux pas recevoir. Et puis, vous dites après, je demande à mon inconscient, je remercie mon inconscient de me donner des infos sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas le droit ou je ne m'autorise pas à recevoir.
Caroline, et par rapport à ça, j'aimerais rajouter aussi, dans le sud-ouest, quand on rend un service, oui, on dit avec plaisir, on répond avec plaisir. Mmh. Et ça, oui, m'accroche toujours l'oreille quand je rends un service, que je dis merci, qu'on me rend un service, que je dis merci, qu'on me dit de rien. Oui. Comme, oui, si ça n'avait pas de valeur. Ou,
oui, exact.
Voilà, c'est rien du tout,
c'était rien, en fait.
C'est comme si la personne n'arrivait pas à accueillir le merci et la reconnaissance par rapport au travail qu'elle vient de donner, par exemple. Donc, quand on reçoit un cadeau, savoir dire merci.
Oui, moi je trouve que c'est excellent comme commentaire, Noël, oui. Bien sûr, c'est comme tu dis, avec plaisir, c'est effectivement pour dire qu'on le fait avec plaisir et on est donc du coup dans une... plutôt une attitude de gratitude et de vibration positive, quoi.
Et d'accueillir.
Voilà. Oui. Et donc, Mazal nous a mis un magnifique commentaire. Et c'est exactement ça que je préconise, c'est que quand on a tapoté sur toutes ces inquiétudes, ces tracasseries, et qu'on remet à plus grand que soi la problématique de quelque chose, Mazel disait qu'elle devait rejoindre son amoureux au Mexique, qu'elle n'avait pas d'argent, et qu'elle a décidé de remettre ce problème à l'univers. Une semaine après, je recevais le montant exact d'une banque qu'elle ne connaissait pas. Donc, voilà, et j'ai eu ça récemment, exactement aussi, avec mon téléphone et ma note de téléphone. Alors, Juliette, est-ce que je fais le fait de savoir à quoi on veut utiliser notre argent comme une cause qui nous tient à cœur aide à attirer l'abondance? Oui, Juliette, je dirais que oui. Dans tous les livres, si vous achetez les livres qui concernent l'abondance, dont un qui est extrêmement connu, qui est Napoléon Riche, Réfléchissez et devenez riche, il dit que les Américains disent qu'il faut consacrer 10% de notre revenu à une bonne cause. Je pense que ça aide à attirer l'abondance parce que ça veut dire qu'on est complètement à l'aise, on est dans une vibration de confiance totale. Donc, ça aide à attirer l'abondance. Mais notre cause peut être une cause de « je veux mettre mes enfants dans une belle maison hein. ». On peut avoir une cause humanitaire, plus avoir une cause qui est personnelle, qui est pour nous, c'est important d'avoir de l'argent. Mais je trouve que Mazel avait une raison que je trouve excellente, c'est que, elle voulait rejoindre son amoureux. C'est cause suffisante de recevoir de l'abondance. C'est pouvoir vivre sa relation et voir son amoureux. Je reviens à l'abondance.
Je vois l'heure qui tourne. Tu prends une ou deux questions supplémentaires?
J'en prends une dernière.
Allez,
voilà.
Parti.
Alors, donc, Urida Satsuki qui dit « Ma relation à l'argent est particulière. Je me rends compte que j'ai toujours cherché à ne pas manquer d'argent, mais je n'ai jamais rêvé à l'abondance et à l'aisance. Comment cela s'explique ?» Alors, je crois qu'il ne faut pas trop savoir pourquoi. Il faut juste décider, prendre une nouvelle décision aujourd'hui. C'est soit, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous bloque encore, c'est d'aller voir qui vous a appris qu'il fallait seulement être dans le non-manque d'argent. Mais le fait d'être dans le non-manque, pour moi, il y a encore le mot manque. Donc, et de tapoter sur les souvenirs ou sur les vous avez entendu à propos du manque d'argent. Et pour vous permettre de mettre un objectif financier ou un objectif d'abondance ou d'aisance, c'est mieux quand on met un objectif précis avec un chiffre et de vous mettre une date, par exemple. Ne la mettez pas trop tôt parce que c'est un peu trop, si vous n'avez pas fait encore d'exercice avec la loi d'attraction, c'est un défi peut-être un peu trop grand. Mais je me souviens, j'étais dans un programme de coaching qui m'avait coûté fort cher une année. C'était 10 000 euros le programme et pour moi c'était vraiment comme quelque chose de pas facile. Mais je sais que j'avais mis d'un mois à l'autre un objectif, c'était de doubler mes rentrées et je l'ai fait. Donc simplement le fait d'être dans une dynamique, d'avoir investi dans un programme et qu'il nous avait conseillé de faire cet objectif, eh bien je l'ai obtenu. J'ai doublé d'un mois à l'autre et ça m'a rendu confiante pour le paiement de ce programme que je payais tous les mois. Voilà.
Merci.
Alors, voilà, je pense que j'ai terminé.
Une petite dernière. J'ai une question pour toi, Caroline.
Oui.
S'autoriser à dépenser, même si on a très peu, permet de faire circuler l'énergie. Qu'en penses-tu? Et c'est Thierry qui pose la question.
Oui, j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'avant, je me disais qu'il fallait quand même faire attention. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut avoir deux attitudes. Il y a la prudence, c'est pas trop dépenser quand on n'a plus beaucoup d'argent. Mmh. Et en même temps, être confiant, être complètement confiant que tous vos besoins vont être comblés et comme le Mazel l'a dit, remettez ce problème, remettez vos factures à l'univers, mais pas juste vous dire je te remets cette facture à l'univers, mais vraiment dans la confiance, soyez dans la confiance que ça va se passer. Et quand on est dans la confiance, eh bien, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on va pas. D'ailleurs, les personnes riches, elles vont continuer à dépenser parce qu'elles savent que normalement, ça continue à rentrer quand on est dans cette logique d'abondance et de confiance dans l'abondance. Eh bien, oui, on va pas regarder on va pas regarder pour ce qu'on va dépenser, mais on est vraiment non seulement dans la confiance et on passe aussi à l'action, hein, s'il y a des actions à faire pour relancer un programme et des choses comme ça.
Oui.
Alors, Sylviane, oui, quand on est simplement salarié, mais on peut écrire un e-book et le mettre à vendre sur Internet. Il y a des tas de choses, des petits compléments de...
On peut faire du MLM, on peut avoir une surprise parce que la facture d'électricité a été mal calculée. Il y a
exactement. Oui, on peut. Si vous avez un talent particulier, vous pourriez donner des cours particuliers. Moi, j'ai ma fille, elle a un blog mode sur Internet, elle reçoit tous ses vêtements gratuitement. Ça l'empêche pas d'être salariée. Maintenant, c'est la nourriture qui l'intéresse. Et ben voilà, elle reçoit son lot de nourriture pendant X temps parce qu'elle a fait une petite recette. Enfin, il y a. Si vous êtes dans une logique d'abondance d'argent, tout va exactement se mettre, mais effectivement, il faut mettre un peu des objectifs. Mais tout va venir, même que quel que soit votre statut. Voilà.
Super. Merci infiniment, Caroline, pour tout ce que tu apportes sur ce congrès chaque année. Tu as fait une conférence l'année dernière qui est en vente dans la boutique également, qui était sur le sujet de l'abondance également.
Oui, comment augmenter sa vibration d'abondance.
Voilà. Merci infiniment.
Moi, je vous dis merci aussi pour le congrès et de m'avoir invité encore.
Mais c'est un plaisir. On va être obligé de libérer la salle parce que je vois qu'il est 41, que la conférence démarre maintenant dans peu de temps. On se retrouve bientôt, Caroline. Merci pour le bonus et tout ce que tu as offert.
Merci et au revoir à tous.
Au revoir, Caroline.
Merci, bonne soirée.
Donc, on se retrouve à 21h. Tapotez-vous bien. Libérez votre abondance à chacun. Faisons circuler cette énergie. Restons dans la gratitude pour tout ce qu'on reçoit. Quoi d'autre?
Merci.
Merci.
Et une petite pause pour se dégourdir les jambes.
Voilà.
Et à 21h, Caroline Burel prendra la relève. Pour la conférence « Que faire quand ils ne veulent pas tapoter ?»
Voilà. Surveillez les petits cadeaux qui apparaissent dans les pages.
Oui, ne laissez pas s'échapper les cochons.
Et puis, disons-le, faites un tour dans la boutique.
Oui.
C'est le moment.
Voilà.
Allez vous dire gourdir dans la boutique.
Oui, c'est ça. Il y a plein de monde.
Allez visiter. Vous allez voir, il y a plein de trucs sympas. À tout à l'heure.
Merci.
Merci à tous.
À tout à l'heure.